VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 8 février 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Alberson. Pour commencer, les titres.
Au Tchad, suspension pour 2 mois de 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi.
Au Burundi, tous les fonctionnaires ont vu leur salaire amputé depuis janvier.
En République démocratique du Congo, disparition d'un pasteur qui avait demandé au président Joseph Kabila de passer le relais.
Au Mali, Sidaham Ag Tahama, l'un des lieutenants d'Iyad Al-Ghali, succombe à ses blessures.
Réunion à huis clos aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter d'une trêve humanitaire en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi ont été suspendus pour 2 mois, et ce pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Les précisions de Didi Dico.
Les activités de 10 partis politiques d'opposition sont suspendues pour une durée de 2 mois, a déclaré le ministre de la Sécurité, Ahmad Mahamat Bachir. Il avait prévenu mardi que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. Parmi les partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, mené par le député Djimet Clément Bagao, leader de la marche avortée de mardi. Il avait affirmé que des manifestants ont été visés par les tirs de la police pendant la marche, mais les forces de l'ordre ont démenti. Une autre marche pacifique est prévue aujourd'hui, jeudi, mais les autorités ont annoncé son interdiction. En réponse, les syndicats ont appelé les établissements de santé publics à suspendre le service minimum, alors que la grève générale des fonctionnaires est entrée dans sa 2e semaine. Les syndicats contestent les coupes sur le salaire des travailleurs du secteur public et un nouvel impôt sur le revenu. Cette grogne sociale a pris des allures de fronde contre le régime du président Idriss Déby Itno.
Au Burundi, tous les fonctionnaires ont vu leur salaire amputé depuis janvier pour permettre aux autorités de financer l'organisation des élections de 2020. Ce prélèvement va durer pendant 2 ans selon une ordonnance ministérielle. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
C'est un véritable racket d'État. C'est l'enfer car le pouvoir exige, en plus de l'impôt habituel, de cotiser pour la construction d'un stade, d'un bureau du parti au pouvoir, d'un centre de santé. Et maintenant, ce sont les élections, a dénoncé un enseignant. Il a ajouté que toute personne qui ne s'acquitte pas de ses cotisations dites volontaires risque la prison ou de se faire tabasser par les Imbonerakure, la ligue de jeunesse du parti au pouvoir. D'après la presse locale, en plus des prélèvements directs sur leur salaire, les fonctionnaires de plusieurs ministères ont été contraints de cotiser de l'argent qui sera versé dans une banque par leur ministre. Suite à un reportage sur la grogne des enseignants de Ruyinghi contre cette contribution, le journaliste Jean Bosco Nshimirimana a été menacé hier de poursuites pour troubles à l'ordre public et 12 mois d'emprisonnement. Le gouvernement a adopté fin octobre un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 2 autres mandats de 7 ans.
En République démocratique du Congo, le sort d'un pasteur qui avait tenu un discours jugé critique devant des proches du président Joseph Kabila suscite des questions. Le pasteur David Ekofo a emprunté un vol de l'ONU pour quitter le pays, d'après les Nations Unies, et son église s'inquiète d'être sans nouvelles de lui depuis dimanche. Des détails avec Eddie Isango.
L'église du Christ au Congo s'inquiète de ne plus avoir aucune nouvelle de son pasteur depuis le 4 février. Elle demande aux autorités congolaises de ne ménager aucun effort pour l'informer de la situation du pasteur François-David Ekofo. La hiérarchie de l'église protestante reconnaît que le pasteur Ekofo était en clandestinité depuis un serment prononcé à l'occasion du 17e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État. Il avait en présence de la famille présidentielle et d'autres responsables critiqué l'absence de l'État dans le pays. Laurence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, a affirmé que le pasteur David Ekofo a voyagé samedi dernier à bord d'un vol de l'ONU Kinshasa-Goma-Entebbe en Ouganda. L'AFP cite aussi un proche du pasteur Ekofo qui a requis l'anonymat, indiquant qu'il se serait rendu aux États-Unis, mais l'église protestante dit ne pas avoir cette information.
Au Cameroun, les élections sénatoriales ont été fixées hier au 25 mars et un conseil constitutionnel chargé de proclamer les résultats des élections a été créé dans le pays selon des décrets présidentiels. Lors de ce scrutin, 70 sénateurs seront élus au cours d'une élection indirecte dont les électeurs seront constitués de conseillers municipaux. 30 autres sénateurs seront nommés conformément à la Constitution par le président Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans. L'élection présidentielle est prévue entre octobre et novembre 2018.
Au Mali, l'un des lieutenants du terroriste Iyad Aghali a succombé à ses blessures. Sidaham Agtahama, grièvement blessé fin janvier dans une attaque contre Menaka, avait commandé plusieurs opérations contre l'armée malienne et les casques bleus de la MINUSMA. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
L'attaque terroriste contre les camps de la garde à Menaka avait fait 5 morts du côté de l'armée malienne. Mais les assaillants avaient enregistré une seule victime. Ils se sont repliés parce qu'ils avaient beaucoup de blessés, parmi lesquels leur chef qui avait conduit l'attaque. C'est quelques jours après que certains groupes armés ont commencé à dire que le chef des opérations d'Iyad a été touché à Menaka. Il s'agit de Sahadam Agtahama, l'un des chefs de guerre de Iyad Aghali, qui a conduit l'attaque perpétrée contre le camp de la garde à Menaka le 28 janvier dernier. Il est mort par suite des blessures échiées à cette occasion. La mort de ce lieutenant de Iyad porte un coup sérieux à cette organisation terroriste à laquelle s'était rallié le mouvement islamique du Grand Sahara et certains combattants de la CMA évoluant dans les secteurs de Menaka et Ansongo. Sidaham avait aussi conduit l'attaque contre les femmes à Gourmararous en avril 2017 ainsi que celle perpétrée contre la patrouille conjointe Fama MINUSMA. Il avait été aussi vu lors de certaines attaques dans le cercle de Nara et aux alentours de la forêt de Ouagadou, jusqu'à la frontière Mali-Mauritanie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les élus républicains et démocrates du Sénat ont annoncé avoir conclu hier un accord budgétaire qui prévoit le relèvement du plafond des dépenses fédérales et du budget de la défense au cours des deux prochaines années. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Si ce compromis se concrétisait, le président Donald Trump obtiendrait la hausse voulue du budget militaire, mais les républicains ont concédé en échange aux démocrates une augmentation comparable du reste du budget, acceptant de faire sauter les verrous d'austérité qui contraignaient les dépenses fédérales depuis 2011. Les parlementaires ont au passage remis à plus tard la question épineuse de la régularisation des centaines de milliers de clandestins appelés Dreamers, provoquant une grogne chez certains démocrates. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et son homologue démocrate Chuck Schumer ont annoncé mercredi cet accord portant sur les montants des budgets 2018 et 2019. Il mettrait fin au rythme de financement de court terme qui était devenu la norme et empêchait le gouvernement de planifier à long terme ses dépenses et investissements. Le président Trump a annoncé son soutien entier, bien que le compromis n'inclut rien pour ériger le mur promis à la frontière mexicaine, une des principales promesses de campagne. L'accord, dont les montants exacts n'ont pas encore été rendus publics, devra être adopté par un vote des sénateurs, puis par la Chambre des représentants, où il n'est pas assuré que les conservateurs d'un côté et une partie des démocrates partisans d'une réforme migratoire de l'autre l'approuvent.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui une réunion à huis clos pour discuter d'une trêve humanitaire d'un mois en Syrie. Une trêve réclamée par les représentants d'agences de l'ONU basées à Damas. Le point avec Morgane Guiriec.
Cette réunion a été demandée par la Suède et le Koweït. Des dizaines de civils ont encore péri hier sous les bombardements sans répit de l'armée syrienne. Le régime de Bachar al-Assad mène depuis des mois des frappes meurtrières contre deux bastions rebelles, la Ghouta orientale, aux portes de Damas, et la province d'Idleb, dans le nord-ouest. Il n'y a aucun progrès pour permettre à l'ONU et à ses partenaires d'accéder aux zones assiégées, a dénoncé l'ambassadeur suédois Olof Skog. Mardi, les agences onusiennes basées à Damas avaient réclamé une cessation immédiate des hostilités pour au moins un mois dans toute la Syrie. Selon les Nations Unies, un cessez-le-feu humanitaire permettrait de livrer une première aide vitale et d'évacuer des centaines de malades. Plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre, dont au moins 6 millions de déplacés.
le réseau mondial d'Al-Qaïda reste remarquablement résistant et plus dangereux dans certaines régions que le groupe État islamique. Telles sont les conclusions d'observateurs de l'ONU dans un rapport consulté hier par l'AFP. Ce rapport envoyé au Conseil de sécurité explique ainsi qu'Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, basée au Yémen, sert de centre de communication pour l'ensemble du groupe djihadiste, y compris en Somalie, en Afrique de l'Ouest et dans le sud de l'Asie.
À Taïwan, les secouristes poursuivaient hier leurs efforts dans un immeuble penchant dangereusement pour retrouver d'éventuels survivants du séisme qui a fait 10 morts et des dizaines de disparus dans la ville orientale de Hualien. Ces opérations sont compliquées par les nombreuses répliques enregistrées depuis le tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 qui a endommagé mardi soir nombre de bâtiments et de rues. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Sénégal veut améliorer l'accès des femmes aux fonciers. L'initiative prospective agricole et rurale IPAR et le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux ont lancé une étude sur la promotion d'une gouvernance foncière inclusive par une amélioration des droits fonciers des femmes au Sénégal. Le docteur Cheikou Marba, directeur exécutif de l'IPAR, estime que les femmes pourront exercer une gouvernance foncière responsable et durable. L'Autorité nationale des ports du Nigeria a généré 833 millions de dollars de recettes en 2017. Ce chiffre est en hausse de près de 85%, le niveau le plus élevé depuis 5 ans. La Banque mondiale accorde à l'Angola 70 millions de dollars pour développer des projets locaux sur 3 ans. Cet argent permettra de financer la construction d'infrastructures sanitaires, de logements sociaux et le développement agricole et commercial. Ce financement est le deuxième dans le cadre de l'exécution du PEDEL, le projet de développement local. Précédemment, Luanda a reçu 87 millions de dollars pour 5 ans. D'ici à 2019, l'Angola mettra en place une ligne aérienne pour les vols domestiques. Une nouvelle compagnie aérienne, l'Angola Expresso, s'appuiera sur 8 à 10 aéronefs d'une capacité de 72 sièges chacun. Ce projet vise à réduire les difficultés de transport dans le pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc se prépare pour 2026.
Et oui, le Maroc a révélé hier les villes hôtes qui pourront accueillir le Mondial 2026. Casablanca et Marrakech auront deux stades. Sans oublier El Jadida, Nador, Rabat, Tanger, Agadir, Tétouan, Fès, Meknès, Oujda et Ouarzazate, qui sont les autres villes sélectionnées pour un total de 14 stades. On rappelle, Idrissa, que la désignation du pays organisateur aura lieu le 13 juin prochain à Moscou lors d'un vote de l'Assemblée générale de la FIFA. Le Royaume du Maroc qui fait face à la triple candidature, États-Unis, Mexique, Canada.
Un nouveau sélectionneur pour l'équipe de rugby du Zimbabwe.
L'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, Peter de Villiers, a été nommé à la tête de l'équipe du Zimbabwe hier. Il succède à Cyprian Mandenge, annonce de la Fédération Zimbabwéenne de rugby. De Villiers, le premier sélectionneur noir de l'histoire des Springboks entre 2007 et 2011, a signé un contrat de 2 ans. On rappelle que le Zimbabwe a déjà participé à 2 Coupes du Monde, les 2 premières en 1987 et en 1991, sans remporter la moindre victoire. Alain Idrissa avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit et Brooklyn, 115 à 106. Houston et Miami, 109 à 101. Cleveland et Minnesota, 140 à 138. Utah et Memphis, 92 à 88.
Dans Washington Forum, ce jeudi 8 février, en Guinée, une décennie que cela n'était plus arrivé, la possibilité de voter dans une élection locale, d'élire son maire, son conseiller municipal ou régional. Avec près de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche dernier, 30 000 candidats sur les listes, quels sont les enjeux de ces élections? Comment interpréter le faible taux de participation et la vague de contestation suite aux accusations de fraude? Les conditions sont-elles réunies pour que la Guinée puisse organiser les prochaines élections présidentielles de 2020? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, la Cour constitutionnelle est réduite à 6 sages depuis le 26 janvier dernier, depuis que le conseiller Simplice Dato, magistrat de haut niveau, a déposé sur la table du président de l'institution sa démission. Cette démission est intervenue, fait-on remarquer, au lendemain de la décision de la Cour déclarant contraire à la Constitution le retrait du droit de grève aux travailleurs de certains secteurs de la fonction publique. La fin du mandat des conseillers de la plus haute juridiction du pays étant prévue dans 5 mois, le départ de Simplice Dato est perçu comme une manœuvre du président du gouvernement du président Patrice Talon pour fragiliser et contrôler l'institution. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
En 28 ans de vie constitutionnelle, c'est bien la première fois qu'un sage de la Cour constitutionnelle démissionne en pleine situation de crise. Les Béninois ont été surpris par ce départ inattendu, surtout au moment où il est attendu de cette institution des décisions pour décrisper la situation sociale du pays. À la Cour, c'est un silence total autour de cette démission. Le secrétaire général de l'institution s'est prêté à nos questions. Pour lui, les raisons de cette démission sont connues du président de la Cour et du démissionnaire.
Je saurais vous dire à la date d'aujourd'hui les raisons qui motivent cette démission. Le constituant et le législateur organique ont tout prévu et la Cour fonctionne tout à fait normalement.
Pour certains hommes de droit, si la loi fondamentale permettait à tout ça de déposer quand ils le désirent son tablier, la période n'était pas favorable à un départ.
C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution. Je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation.
Mais pour d'autres comme Bastien Salami, cette décision est le signe d'un malaise profond existant au sein de l'institution.
La Cour s'est trompée volontairement dans un but précis. Je suis à l'aise pour dire aujourd'hui qu'en réalité, il y a un malaise profond au niveau de cette Cour, de sorte que le conseiller qui a démissionné n'est certainement pas le seul.
Le conseiller démissionnaire a été nommé par le président de la République et donc il a pas au chef de l'État actuel de nommer son remplaçant et c'est ce qui attise la méfiance de la classe politique et de la société civile. Plusieurs associations ont appelé le chef de l'État à ne pas fragiliser les institutions de la République. Le clergé s'y est même mêlé à travers une conférence de presse à appeler les hommes politiques à cesser d'utiliser l'agent à des fins peu recommandables.
Que tous les fils et filles du Bénin fassent reculer le pouvoir de l'argent sur la vie politique nationale. Cette pratique mène à l'impasse et érige à petits coups un système d'approvisionnement matériel, moral et spirituel de notre société.
En l'absence d'une version officielle des raisons de cette démission, les rumeurs vont bon train. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, explique que le gouvernement Talon est conscient de ce que les décisions de la Cour sont inattaquables.
Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques. C'est une question d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se prononcent et apprécient. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays.
Conformément au règlement intérieur de la Cour, son remplaçant devrait être nommé au cours du mois de la démission, c'est-à-dire en janvier dernier. Au grand étonnement de l'opinion, le gouvernement qui doit procéder à cette nomination n'en parle pas. Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, inquiétude dans les rangs des avocats des 47 personnes extradées récemment du Nigeria, parmi lesquelles Ayuk Tabe, leader des séparatistes anglophones. Ces avocats affirment n'avoir aucune nouvelle de leurs clients. Cette situation provoque également de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Pendant ce temps, la tension ne cesse de monter dans les zones anglophones depuis l'annonce de ces extraditions. De Yaoundé, Emmanuel Julentap.
À Yaoundé, c'est l'inquiétude qui a gagné le camp du collège d'avocats devant assurer la défense des 47 personnes extradées du Nigeria. À 4 reprises, ceux-ci ont tenté en vain de rencontrer les 47 sécessionnistes. Maître Claude Assira, l'un des 4 avocats du dit collège.
Je doute fort que l'identification de ces personnes ait été faite et qu'ils puissent être aujourd'hui indiqués avec précision ce qui peut être reproché à l'une ou l'autre de ces 47 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ni a fortiori qu'ils puissent y avoir une documentation de ces reproches et griefs éventuels. Par conséquent, on est tous dans le flou total. Je doute fort que les autorités de poursuite soient elles-mêmes plus renseignées que nous et c'est regrettable que nous n'ayons pas la possibilité d'accéder à ces personnes. Il est dommage pour la vérité qu'elles prennent des chemins aussi tortueux.
Le lieu de détention des 47 est toujours tenu secret. Le gouvernement camerounais a démenti cependant le 2 février dernier les rumeurs d'exécution extrajudiciaire des concernés. Il a en outre affirmé que ceci était en exploitation par la police judiciaire. Une démarche que critique Maximilienne Gombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, basée à Douala, au Cameroun.
Vous dites qu'ils sont en exploitation. On ne sait pas si c'est le procureur de la République. On ne sait pas si c'est le commissaire du gouvernement. On est dans un pays de droit.
En zone anglophone, la peur et la colère dominent désormais les esprits des populations depuis l'extradition des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. C'est du moins un avis que partage Dr Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la société civile, un militant des droits humains qui a séjourné en zone anglophone pendant ces 10 derniers jours.
Les populations sont en colère, colère contre la République du Cameroun, colère contre les extrémistes séparatistes aussi. En colère aussi contre la gendarmerie et les forces spéciales parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde peut être d'office considéré comme potentiel terroriste. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui sont tués.
C'est devant le tribunal militaire de Yaoundé que Ayouk Tabé Sissoukou et 46 autres sécessionnistes devraient passer à la barre et encourent la peine de mort. Une option des pouvoirs publics globalement soutenue à Yaoundé par la population.
Ils doivent vraiment subir une justice très ferme.
On ne négocie pas avec les terroristes. Regardez combien de familles ont perdu, des gens sont en deuil au jour d'aujourd'hui par leurs propres frères.
Lundi dernier, le département d'État américain a demandé aux autorités camerounaises de respecter le droit à une procédure judiciaire en bonne et due forme pour les 47 personnes extradées du Nigeria vers le Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Malgré la récente chute de la monnaie virtuelle connue comme Bitcoin, les Nigérians continuent d'utiliser de telles crypto-monnaies. Le pays pétrolier de 190 millions d'habitants est d'ailleurs le troisième détenteur de Bitcoin au monde en pourcentage du PIB, derrière la Russie et la Nouvelle-Zélande, selon un rapport publié en décembre par la banque américaine Citigroup. Pour un éclairage, Ekia Badou a joint à Paris Cheikh Isaac Kone, investisseur dans le Bitcoin.
L'Afrique a connu ces dernières décennies des dévaluations en fonction de leur monnaie, ce qui a certainement créé des conflits ou une perte de richesse pour les monnaies des pays africains. Donc l'arrivée du Bitcoin est déjà une révolution en soi et encore plus pour l'Afrique. C'est une opportunité et par le futur, ce sera vraiment une révolution.
Alors une opportunité, une révolution, il y a des jetons virtuels, le token, qui peuvent servir à acquérir des bons d'achat. Il y a même la société Surmit qui a mis sa propre crypto-monnaie. Qu'en pensez-vous?
La concurrence, elle peut être positive pour les clients, mais en même temps, ça peut être un piège. Pourquoi? Parce que le but principal des tokens, un token, il est spécial, on dit qu'il est spécial et qu'il va rapporter beaucoup d'argent, dans le sens où il a une particularité spéciale pour la population, pour l'environnement, d'accord? Si un token n'a pas de particularité, il ne vaudra rien. Ce sera peut-être, admettons, s'il part de zéro lorsqu'on lance le token, il arrive à 10 centimes et après il redescend et il meurt, ça ne sera pas un avantage pour les populations. Donc je pense que derrière ce mot token, il y a des scammers, ce qu'on appelle des scammers, des gens qui veulent voler l'argent des contribuables, de la population. Comme partout, dans toute industrie, il y a des scammers. Ils lancent des faux tokens pour pouvoir attirer ceux qui, justement, ne connaissent pas ces nouvelles monnaies qui sont en train d'arriver. Ils veulent, entre guillemets, les arnaquer.
Alors, par rapport à l'arnaque, justement, les détracteurs parlent de manque de régularisation. Comment rassurer les futurs acquéreurs?
Je pense déjà que la particularité du Bitcoin, c'est que, justement, il est dérégulé. Donc, si on parle de régulation, c'est comme si on retournait dans le système des monnaies fiat que l'on voit actuellement. Le mot régulation, c'est, je pense, un piège que les différents gouvernements dans le monde sont en train de créer.
Alors, comment légiférer dans ce cas pour avoir plus de sécurité ?
Pour avoir plus de sécurité, je pense que les systèmes comme Visa et Mastercard devraient travailler en étroite collaboration avec le Bitcoin et toutes les grandes crypto-monnaies pour essayer justement de sécuriser les transactions. Je pense que c'est, à mon avis, la seule solution pour l'instant.
C'était de Paris, Cheikh Isaac Koné, investisseur dans le Bitcoin.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'homme d'affaires américain Elon Musk se rapproche de son rêve de coloniser la planète Mars suite au lancement mardi de la fusée la plus puissante du monde, Falcon Heavy de SpaceX. Ce visionnaire a montré au monde entier qu'il était capable de mettre sur orbite de gros satellites. Nathalie Barge a joint l'astronome Pierre Bracci à l'Observatoire de l'Université de Genève.
Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'ils arrivent à envoyer une fusée et récupérer les deux boosters. Et ça, je dois dire que, du point de vue technologique, c'est fort. Pour rappeler une chose, hein, c'est qu'elle peut envoyer 60 tonnes en orbite basse, alors que les Européens qui sont en train de construire une fusée Ariane 6, ce sera une fusée qui sera à peu près trois fois moins puissante. Les Américains, avec le système SLS qui dure depuis je ne sais combien de temps, n'ont toujours pas réussi à envoyer leur fusée hyper puissante qui devrait envoyer à peu près le même genre de poids.
En matière de coûts, est-ce qu'il arrive à vraiment, on va dire, casser les prix ? Et est-ce que cela, justement, permettra plus de progrès en faisant ce type d'économie ?
Ouais, alors là, c'est peut-être pas encore tout à fait gagné, hein, parce que justement, je parlais d'Ariane 6, là, la fusée européenne. Eux, ils devraient arriver à peu près pas beaucoup plus cher que la fusée Heavy de Elon Musk. Elle, ça sera pour 2020, apparemment. Donc, il a quand même un petit peu d'avance, mais du point de vue coût, c'est pas encore tout à fait gagné, même si, comme je vous dis, là, il vient quand même de frapper un grand coup, et puis qu'il pourra envoyer, en fait, des charges un peu plus lourdes.
En revanche, est-ce que cela permettra finalement à la NASA de se passer de l'aide des Russes, notamment par rapport à leur vaisseau Soyouz?
Ouais, alors Elon Musk, il a réussi à envoyer une fusée, mais il n'a pas encore réussi à envoyer des êtres humains. Et pour envoyer des êtres humains, je ne sais pas encore si on peut dire qu'il a gagné. Parce que les Russes, avec leur fusée Soyouz, eux, c'est devenu quelque chose de, on va dire, quasiment machinal. Hein. Je veux dire, ils envoient les hommes dans la station spatiale. Donc quand ils nous promettent d'envoyer des hommes sur Mars en 2024, moi, je serais quand même très prudent.
Et le véhicule flottant dans l'espace, la fameuse voiture, là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors là, c'est plutôt un grand coup de pub, hein, je veux dire, d'aller mettre sa voiture dans l'espace. D'abord, un, je vois pas l'intérêt, et deux, il y a déjà assez de déchets comme ça dans l'espace. Et il y a 2 ans, les Chinois ont perdu un satellite. Ce satellite est rentré en contact avec un petit déchet, et même à 28 000 km/h, eh bien, ça a fait exploser le satellite. Donc voilà, il a pas voulu mettre un vrai satellite dedans pour ne pas risquer la vie de ce satellite. Parce que les satellites, ça peut vite être 100, 200, 300, voire 500 millions de dollars. Il a dit, on va faire comme s'il y avait un satellite pour montrer qu'il était capable, avec cette fusée, de mettre quelque chose en orbite autour de la Terre. Je pense que la prochaine, il va avoir des clients pour pouvoir mettre en orbite des satellites avec cette grosse fusée, cette fusée très puissante, où il pourra mettre des gros satellites en orbite.
L'astronome Pierre Bracci à l'Université de Genève.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Africa. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.